Vous écoutez RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Dans quelques instants, nous avons rendez-vous avec Laurent Gérard et toute son équipe. Mais tout de suite, à 8h40, la revue de presse avec Isabelle Choquet. Isabelle, dans la presse ce matin, le palais des fées.
On a beaucoup parlé ce matin du palais céleste, cette station chinoise errante qui s'est désintégrée en une pluie d'étoiles au-dessus du Pacifique. Je voudrais moi vous parler d'un palais bien terrestre, limite terre à terre, mais où parfois on tutoie les anges. Il s'agit du palais de justice de Paris. 700 ans qu'il est installé là, en plein cœur de la cité, sur l'île du même nom, à Paris, comme un pendant à notre Notre-Dame, justice divine, justice des hommes. Le palais va déménager au Batignolles et la chroniqueuse judiciaire du Monde, Pascale Robert-Diard, en a profité pour faire le ménage dans ses petits carnets. Ah. 15 années de procès, grands ou petits, des puissants et des misérables. En préambule, elle cite un autre chroniqueur judiciaire, Jean-Paul Lacroix, qui en 65 écrivait « Le palais est notre sixième scène nationale. On y joue tous les jours, en matinée, la tragédie et le vaudeville, et pas en alternance comme aux Français, simultanément. » Robert-Diard raconte ainsi Dominique de Villepin au procès Clearstream. Pendant que les autres prévenus étaient interrogés, ils se récitaient du Rimbaud et comptaient les caissons et les bougies des lustres de la première chambre. Houellebecq, poursuivi pour diffamation. Et cet ami qui s'indigne, qu'on lui demande de dire « je le jure ». Oh, c'est très fort, je le jure. Est-ce que je peux dire « je promets » Elle nous emmène à la 23e chambre, celle des comparutions immédiates. Cliquetis des menottes qu'on retire, gueule hirsute et blême de ceux qui sortent tout juste de garde à vue. Plus loin, c'est le vaudeville. John Galliano, jugé pour injure. Vous auriez dit, tu as des bottes bas de gamme, des cuisses bas de gamme, tes cheveux sont immondes, ta voix est horrible. John Galliano explique d'une petite voix qu'il avait à l'époque une triple dépendance à l'alcool, au somnifère, au valium. Il s'excuse. L'audience, live tweetée et internationalement diffusée, a duré 6 heures. C'était vulgaire et démesuré. C'était l'actualité, écrit la journaliste. Et puis il y a ce gendarme, cité comme témoin au procès des attentats de 95 dans le RER parisien. Je ne me souviens plus de son visage. Je me rappelle seulement qu'il était costaud et qu'il portait une épouvantable cravate à fleurs qui n'allait pas du tout avec son costume, qui n'allait avec rien d'ailleurs. Il avait vu les poseurs de bombes. Il pouvait décrire précisément leur visage, leurs vêtements. Seulement voilà, il n'aurait pas dû être là ce jour-là, à cette heure-là. Il était venu avec sa maîtresse à Paris. Son épouse le croyait en Bretagne. Le gendarme savait que dans une enquête, beaucoup peut se jouer sur un témoignage. Le mari savait que s'il lui avouait son escapade, sa femme le quitterait. Il avait dit tout cela devant la cour d'assises, la nuit blanche, le cas de conscience, sa décision de parler qui a fait avancer l'enquête, le divorce qu'elle a entraîné. Une giclée de vie ordinaire sur un champ de mort. C'est à lire dans M, le magazine du Monde.
Il aurait dû se retrouver au tribunal. Julio Santana a tué 492 personnes.
Bilan d'une carrière de tueur à gages qui a duré 35 ans. Nous sommes au Brésil, dans un petit village d'Amazonie. Santana a tué pour la première fois à 17 ans pour prendre la relève de son oncle malade de la malaria. C'est avec lui qu'il a tout appris. Le mode opératoire d'abord, toujours le même. Une balle dans la tête, calibre 38. Les clients, ce sont des politiques, des hommes d'affaires, des épouses ou des maris bafoués. Sa première victime, c'était un homme qui avait violé une petite fille de 12 ans. Le commanditaire, c'était le père. Pour se faire pardonner, il récite 10 Ave et 20 Pater. Toutes les cibles, il les note dans un petit carnet, comme une liste de courses. Malgré ça, une fois, en 35 ans, il a tué la mauvaise personne. Et finalement, il était plus inquiet de ce qu'allait penser son employeur que de ce pauvre homme mort pour rien. Il tue des hommes, des femmes, même des enfants. Le plus incroyable, c'est qu'à part sa femme, personne n'a jamais rien su. Il faut dire que la couverture était parfaite. Officiellement, le tueur était un policier. L'écrivain Clester Cavalcanti a recueilli les secrets de Santana et en a fait un livre intitulé 492. Son interview est à lire dans Society. Pour l'anecdote, la seule chose que Santana a voulu retirer du livre, c'est une scène d'amour entre sa femme et lui, parce que pour lui, c'était ça le plus gênant, plus que des centaines d'assassinats.
Un vrai film noir, mais en France, ce sont les comédies qui ont la cote en ce moment.
Ah oui, on n'avait pas vu ça depuis 2014. Les Tuches 3 et la Ch'ti de famille viennent de dépasser les 5 millions de spectateurs. Alors jusqu'ici, les Tuches sont en tête d'un cheveu, un cheveu roux forcément. Un vrai phénomène, nous dit le Parisien. Le nom Tuche est en train de s'installer dans le vocabulaire courant, comme les groseilles à l'époque de La vie est un long fleuve tranquille. Mais Danny Boone est le grand chouchou des Français. À la fin du week-end, il aura peut-être doublé les Tuches, allez savoir. Et puis Tout le monde debout de Franck Dubosc est plutôt bien parti aussi. C'est clair donc, les Français aiment la poilade. La comédie réalise 2/3 des entrées ciné. En tête ces 10 dernières années, bienvenue Bienvenue chez les Ch'tis, forcément. Intouchable et Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Mais en plus, nos comédies s'exportent. La Ch'ti de famille, malgré l'accent, a été vendue dans 17 pays. Les Tuches, 7 pays seulement. En Italie, sachez-le, les Tuches ont paraît-il des cousins, les Tucci, une famille improbable de la campagne romaine. Mais à ce jeu, c'est finalement Franck Dubosc qui gagne. Son film sur le handicap est vendu dans 19 pays jusqu'en Thaïlande.
On continue à voyager en fait en Pâques.
Oui, la croix ne paraît pas aujourd'hui, mais sur le site, vous trouverez un petit quiz très sympa sur les différentes façons de célébrer Pâques dans le monde. Vous apprendrez ainsi qu'à Florence, un char bourré de feux d'artifice est allumé grâce à des fragments de pierre ramenés par les croisés du Saint-Sépulcre à Jérusalem. En Allemagne, on fait un Osterfeuer, un feu de joie. Et puis en Pologne, on fête Smigusdingus, rien que le nom m'amuse. On fête ça d'une bien étrange façon. Les jeunes s'arrosent d'eau et se fouettent les jambes avec des brindilles. Personnellement, je préfère les lapins au chocolat. Allez, joyeuse Pâques à tous.
C'était la revue de presse d'Isabelle Choquet.